Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça commence.
Qui veut courir et montrer son savoir ? Moi, je veux montrer le mien. Faites entrer le premier concurrent. Catégorie ? Je cours dans le monde amoureux, côté cœur. Je veux être interrogé sur les positions affectives.
Il ne faudrait pas confondre les œuvres que la modestie du véritable orgueil laisse sortir de nos profondeurs sans vouloir mettre la main à la pâte et celles que par faiblesse et vanité stupide nous nous croyons libres de fabriquer en surface. J'ai deux fois commis cette faute, ce péché contre l'esprit, deux taches d'encre en résultent, les monstres sacrés et la machine à écrire. Tout s'achève par un autoportrait, les héros des mythes finissent par composer un seul monstre à nombreuses têtes qui dénoncent les poètes. Dostoïevski peut dire « Le prince Mushkin, c'est moi », Tolstoï, Anna Karénine, c'est moi, et c'est moi peuvent dire tous ceux qui eurent la force d'imposer les ombres à travers des artistes qui les incarnent sur les planches. Il y a 50 ans, Cocteau écrivait « Le cordon ombilical », Dieu qu'il est bon de le relire. Il est 16h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Le Polaroid du jour, c'est l'image qui loge dans votre tête. Sur le plateau du milieu, on prend l'atelier du début, l'atelier volant, et l'on voit ce qu'il en reste plus de 40 ans après. Et sur le plateau de la fin, la poésie bégayante, tournoyante de Gerasim Louka, choisie par Laurence Courtois et dite par les comédiens de la Comédie Française. Voilà de bonnes choses de dites. Pour l'instant, écoutons la voix filaire et enfumée de Noémie Lvovsky, l'exercice de ce déballage de bibliothèque qui emprunte son idée et son nom à l'ouvrage de Benjamin. Nous le compliquons puisque nous demandons aux comédiens et aux comédiennes de réduire leur liste à 5 textes. Creusez-vous la tête, tentez l'exercice à la maison, vous allez voir, c'est assez cruel. Noémie Lvovsky a avoué qu'elle aurait très bien pu ne faire figurer que des poètes dans sa liste, voire que des poèmes de W.H. Auden. Elle décide finalement de nous lire un seul poème, Le Chant funèbre, qu'elle agrémente d'un petit supplément d'enfance. Auden par Lvovsky, on écoute.
Arrête toutes les horloges, coupe le téléphone. Jette un os juteux au chien pour qu'il cesse d'aboyer. Fais taire les pianos et avec un tambour étouffé, sors le cercueil. Fais entrer les pleureuses. Que les avions tournent en gémissant au-dessus de nos têtes, griffonnant sur le ciel ce message. Il est mort. Noue du crêpe au cou blanc des pigeons. Donne des gants de coton noir à l'agent de la circulation. C'était mon nord, mon sud, mon est et ouest. Mon travail, mon repos. Mon midi, mon minuit, ma parole, mon chant. Je pensais que l'amour durait pour toujours, j'avais tort. On ne veut plus d'étoiles désormais, éteins-les toutes. Emballe la lune et démonte le soleil. Vide l'océan et balaye les bois, car rien maintenant ne vaut plus la peine.
C'est un poème de W.H. Auden, Noémie Lvovsky. Hier, vous disiez que s'il n'y avait pas eu Duras, il n'y aurait pu avoir que des poètes. Et en fait, dans votre bibliothèque, il y aura un seul poète, et ce sera lui. Pourquoi ?
Parce que je trouve ce poème absolument magnifique et que je ne sais vraiment pas dire pourquoi. En plus, je ne comprends pas bien assez l'anglais pour pouvoir le lire en anglais. C'est toujours bizarre, un poème traduit.
Alors, ce serait qui les autres qui auraient pu prendre place ?
Oh, Apollinaire, Baudelaire, Prévert, certains d'Aragon. Je ne sais pas s'il serait très content que je le dise. Certains de mon fils, quand il avait 5 ans, 6 ans. Il me dictait ça, moi j'étais... Oh. Alors, par exemple, il y en a un qui est très court, qui s'appelle « Les yeux ». Les yeux ouverts comme la terre bleue comme au fond de nous, le cœur rugit, la beauté jusqu'au loin, les lèvres rouges, les oiseaux volent au fond de nous, la peau beige comme la cire, la paupière se ferme vite comme le vent va vite comme la lumière est bougie. Vous en voulez d'autres ? Il y a une fleur qui va mourir, l'eau de la pluie va l'arroser, oh, qu'est-ce qui se passe ? Un chasseur marche dessus, voilà la fleur, tout évanouie. Ça s'appelle la fleur de pluie. Et il y en a un, poème de guerre et d'amour. Le cœur d'amour tout rouge, le soleil, les flammes d'amour, le feu tout rouge et tout jaune, l'arc-en-ciel qui se lève de bon matin, l'ange du ciel, les nuages tout rose, le cœur qui grossit de plus en plus, la fleur toute jaune et toute rouge, la fée toute rose avec un chapeau pointu, l'herbe toute verte claire, le feu rouge comme le sang, le blé jaune comme le soleil, le coquelicot rouge comme le sang, le mouton blanc comme les nuages, la terre bleue et verte comme l'herbe et l'eau, la tige de la fleur haute jusqu'au ciel, les pétales petites comme une souris, la terre marron comme les Africains, les étoiles aussi belles que l'arc-en-ciel, le poignard qui s'enfonce dans le ventre, le sang qui dégouline par terre. L'épée avait tranché la tête, la flèche empoisonnée qui a tué 2 hommes, le trou profond. et que tous les hommes de la terre tombent. Les chevaliers se battaient l'un après l'autre, le cœur qui grossit et qui grossit. La flèche d'amour qui traversait la terre, le volcan et la lave avaient tué 2500 hommes, le feu tournait autour du village, le feu qui faisait une tornade et qui envahissait tous les habitants. Paolo Mattei.
Et alors, qu'est-ce qui se passe quand un enfant vient vous dicter ça?
Bah d'abord, je trouve ça juste très, 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 très beau. Et puis après, je lui demande s'il va bien.
Pourquoi vous lui demandez s'il va bien?
La paupière se ferme vite comme le vent. Je lui dis qu'il a du temps devant lui. Il a 5 ans et demi.
Qu'est-ce qu'il y a comme rapport différent qu'on peut entretenir avec la poésie et qu'on n'entretient pas avec des romans, par exemple?
Ça fait... Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'aime tant ce poème d'Oden et tellement d'autres. C'est quand on ne sait pas prier, quand on ne peut pas prier et qu'on en a envie ou besoin. Ça fait comme des prières, pas les romans. Pas ceux que je lis, en tout cas.
Ça veut dire quoi, pas savoir prier?
Bah, je sais pas, quand on ne croit pas ou quand on ne connaît pas de textes de prière ou quand les textes de prière qu'on connaît ne nous conviennent pas. La poésie, c'est comme certaines chansons, quoi. Ça... J'ai l'impression que très très souvent, on ne peut pas être aussi sentimental qu'on l'est. Je dis « on », parce que j'ose pas dire « je », mais je ne vais pas généraliser à tout le monde, évidemment. Ouais, on ne peut pas se permettre d'être aussi sentimental qu'on l'est, parce que sinon, on ne se lève pas le matin, on ne met pas un pied devant l'autre, et on ne peut plus travailler, enfin, on ne peut plus avoir de rapport civilisé. Et certains poèmes, comme certaines chansons, nous permettent d'être aussi sentimental qu'on l'est en vrai, mais qu'on...
Il y a des chansons que vous il y a des chansons que vous mettriez sur les mêmes le même plan que Oden ou que Prévert ou que Baudelaire ou qu'Apollinaire.
Oui, bien sûr.
Moi, il y en a une en tout cas que vous avez envie de faire entendre. Là, c'est laquelle?
Là, c'est la petite cantate
de Barbara. Pourquoi?
Parce qu'elle a été écrite pour quelqu'un qui est mort.
Elle se trouve aussi dans votre film.
Oui.
Dans le dernier film. Et elle n'est pas chantée par Barbara?
Non, elle est chantée par Yolande Moreau et Michel Villermoz. Et moi un peu. Et si on disait une prière?
Une prière? Mais ça va pas.
Pas une vraie prière, une chanson.
Bon, une chanson. Quelle chanson?
La petite cantate. Je vais chercher mon magnétophone.
Oh non. Cantate, tu ou des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, suis la raison d'enfant. Cette petite cantate, fa sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la maladie, le similaire et seul dauphin.
Notre voix souriante va assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante la pour moi. Similaire et similaire et si seul dauphin. Similaire et similaire et si seul dauphin. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similaire et similaire et si sol do fa. Similaire et similaire et si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similaire et si sol do fa.
Ça va finir par être une bonne blague à répétition, la présence de Barbara, pas la peine de crier. Demain jeudi, Noémie Lovski nous fait lecture d'un extrait pour le moins sulfureux d'un roman de Philip Roth. Mais pour l'instant, le cerveau est écran, magnifique et infini. Projetez l'image, c'est le Polaroid. c'est dans la cavité blanche, au-dessous de la calvitie blanche. C'est à l'étage intérieur de l'immeuble de la tête qui loge sans mots. Je l'ai installé là, pour qu'il dorme. Il y a quelques années et depuis, assez régulièrement, faut dire, il déploie une toile d'un cinéma inattendu. Il tourne toutes les manivelles dont il dispose. Parfois, il en rajoute, avec la musique d'un clavier. Il n'orne pas, mais il souligne de quelques notes la peinture en mouvement. C'est le locataire du cerveau, projectionniste, à qui je remets les clés. Il est, chez lui, dans mon cinéma. Je lui fais le noir. Je lui laisse du temps. Je m'installe à la fenêtre ou dans le bain et le regarde agir à sa guise. Je ne disparais pas ni ne capitule, mais me laisse faire en toute conscience, spectatrice et rêveuse. Auditrice de son one-man show, il ne danse pas, il se pose tranquille sur l'écran de drap blanc. Quand l'image se dissipe, je reviens au monde qui est dessiné dehors et rien n'est plus violent, mais rien n'est meilleur. Je ne parle pas avec ce locataire. Il a les clés, il est chez lui. Jamais nous ne sommes expliqués sur quoi que ce soit. Il règne des contrats implicites entre nous qui ne nécessitent aucune signature. Il me fait voir des couleurs. Même pas sur palette. Même pas commercialisable. Exemple de tout prix. Et c'est pour cette raison seule, je crois, que mon crâne lui est rendu disponible. Il est locataire. Indélogeable, sans bail et sans sursis. Et moi, propriétaire de rien.
Et marque la page de traces subtiles.
Ce Polaroid, Miss Chanel avait choisi de vous faire entendre Locataire de Kité Kobe. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h passé de 16 minutes, deuxième partie de notre émission. En 1971 est publié L'Atelier volant, qui est le premier geste, le troisième en fait, mais le premier public, le premier sang d'une œuvre qui en comptera un bon nombre. En 1974, la pièce est mise en scène par Jean-Pierre Sarrazac et l'auteur gentiment viré des répétitions. De cela et du désir, de l'amour pour les comédiens naîtra La Lettre aux acteurs qui paraît, elle, en 1973. C'est une injonction au soleil respiratoire, à la dépense du corps, le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange là-bas sur ce plateau. Bref, L'Atelier volant et La Lettre sont deux fondements, furieux comme sont les bons débuts, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Peut-être plus encore que l'actualité du propos de la pièce qui critique le système de surproduction, l'effacement de l'individu, l'oppression par le langage et le théâtre lui-même, il est toujours intriguant de rencontrer à nouveau un auteur par son premier bout. Peut-être est-ce cela plus encore que nous scrutons sur scène dans la langue qui naît ou renaît ou re-renaît. Cette fois, c'est donc vous, Valère Novarena, qui signez la mise en scène de votre première pièce, L'Atelier volant, au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 6 octobre, puis en tournée en France et en Suisse. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Retour en 1974.
Je crois que de toute façon, la pièce est une légende sur le mode comique, sur le mode d'une charge comique, subtil, enfin, au paradoxe, c'est la légende des rapports capital-travail. C'est une légende, enfin, qui a valeur de prophétie en même temps. C'est-à-dire que on peut imaginer, c'est un peu ce que j'ai fait, que l'on monte la pièce depuis un temps où une rupture politique profonde s'est faite, où les employés sont maintenant régnants, et où les volatiles, dont on parlait tout à l'heure, ce ne sont plus les employés, mais ce sont les boucaux, enfin, à leur tour encagés, si vous voulez. On peut imaginer que l'on monte cette pièce depuis un futur hypothétique, c'est-à-dire depuis une année 2075, où les employés auraient pris le pouvoir, où ils auraient gardé sous cloche les monsieur et madame Boucaud et le docteur, pour donner, à l'occasion de quelques fêtes des temps nouveaux, une représentation des anciens rapports du temps où le capitalisme était encore à son apogée.
Alors vous installez le théâtre dans le théâtre.
Oui, alors ça, c'est une mesure qui découle un peu, une mesure artistique qui découle un petit peu de ce que je viens vous dire à l'instant. C'est-à-dire qu'on a parié sur un espace gigogne. On utilise, que ce soit pour les représentations au théâtre Jean Villard de Suresnes, que ce soit au théâtre du 8e de Lyon, que ce soit au Grenier de Toulouse, chez Maurice Sarrazin, on utilise l'espace italien, l'espace frontal. Mais à l'intérieur de cet espace frontal, on reconstitue une sorte de baraque foraine. Enfin, c'est un peu une transposition, si vous voulez. On raconte les rapports capital-travail, l'affrontement entre les employés et les boucaux. On le raconte sur le mode de la vie d'une baraque foraine.
Vous vous souvenez de ce jour-là, Valère Novarena?
Non, mais c'est saisissant d'entendre une voix d'il y a 40 ans.
Ouais.
Jean-Pierre Sarrazac, il y a 40 ans, c'est très,
vous étiez
très
là.
Étrange.
On vous a coupé
vous étiez là.
Timide et réservé, laissant parler le metteur en scène. Donc on l'entend, Sarrazac, on est en 1974. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vous qui signez la mise en scène à ce moment-là?
Oh, parce qu'à ce moment-là, je suis un étudiant à l'Institut d'études théâtrales et j'ai très peur des acteurs et j'en ai jamais vu de très près et voilà, c'est par la suite, c'est les acteurs qui m'ont encouragé à faire les mises en scène, qui m'ont dit, il y avait une sorte de pudeur et de comme ça, je me situais du côté de l'écrit, de la page, et j'avais dans le fond un peu peur de parler à des corps vivants, enfin je sais pas. Et puis donc par la suite, tout ça a changé. J'ai pris un goût très fort à travailler avec les acteurs aussi, un tel retour à la vie après les moments de solitude, les moments de cellule, les moments de, pas incarcération, mais un petit peu quand même, parce que quand on écrit, on est très enfermé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de m'enfermer de plus en plus. Et tout d'un coup, les autres sont là. Et travailler avec les autres, c'est une joie tout à fait extraordinaire. Donc, les moments où je travaille avec les acteurs sont des moments de joie, vraiment.
Est-ce que vous vous souvenez de la sensation, peut-être du sentiment, au moment où cette pièce, qui est la première qui est publiée, arrive sur scène et rendue publique ? Pas
oui,
par
ça,
vous,
c'est,
mais
ça, c'est,
excès,
ça s'est quand même excessivement mal passé. Je pense que le spectacle était très beau, mais qu'il avait, il avait en particulier un magnifique décor de Gauvin, une chose démontable. Il n'était pas du tout dans le goût du temps. Il était très, très contraire au goût du temps. Il a choqué de tous les côtés, puisqu'il a été, pas interdit à la radio, mais enfin une émission, il devait être retransmis à la radio, ça a été déplacé pour des raisons de censure, enfin disons parce qu'il y avait une élection le lendemain. Mais parallèlement, par
chez
exemple...
Lucien Atoun ?
Pardon ?
Chez Lucien Atoun ?
Non, il était programmé, je ne sais plus, c'est Maréchal et Cilla Shelton qui l'avaient enregistré. Il était programmé un samedi soir, et j'ai reçu une lettre de Pierre de Boisdeff me disant « Il y a le dimanche des élections européennes, vous n'irez pas que l'Atelier Volant est une... » pièce politique, donc on ne peut pas la diffuser la veille des élections. C'était quand même un grand honneur fait à l'Atelier Volant. Mais parallèlement à ça, Jean-Pierre justement parle du grenier de Toulouse. Ils sont allés à Toulouse, et à Toulouse, ils ont présenté la pièce devant des délégués du public. Il y avait à l'époque, le public était quadrillé par des délégués, et les délégués ont dit « On ne présente pas ça à notre public, prenez un chèque et allez-vous-en ». Et les acteurs et Sarrazac sont repartis la queue entre les jambes, sans avoir joué l'Atelier Volant à Toulouse. Une pièce qui a eu beaucoup d'avatars tout le temps, et le fait qu'elle fasse aussi parfois un peu grincer, ou que les gens l'acceptent pas comme ça, comme une dragée ou comme une lettre à la poste, qu'il y a des résistances, je le savais, je m'en réjouis. C'est une pièce qui a toujours une certaine efficace, disons.
C'est ce qui a motivé le projet 40 ans plus tard de vous atteler à la mise en scène de l'Atelier Volant?
Oui, puis je sais la pièce par cœur, j'en fais souvent des lectures de certaines scènes, et chaque fois que je disais ces scènes, les gens me disaient « mais vous avez écrit ça avant-hier ou hier soir », etc. La pièce, évidemment, en partie, parle beaucoup de choses qui nous préoccupent aujourd'hui. Elle est perçue très, très directement par le public. On voit ça en ce moment au rond-point, les gens sont étonnés de... J'ai changé un seul mot pour la réactualiser, si vous voulez, le seul mot que j'ai changé. À un moment, le patron, Boucaud, demande aux employés pour tester leur savoir, où est né le canuet ? Le canuet, aujourd'hui, les jeunes gens ne savent plus tout qui c'est. Donc la question est devenue, où est né Raymond Barre ? C'est à peu près le seul changement que j'ai fait.
Pour autant, je ne peux pas imaginer que c'est cette seule concordance des temps qui vous motive à la monter aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement le fait que vous pressentez et que vous sachiez que ce qu'on va entendre sur le plateau va résonner avec l'actualité ? Ça ne peut pas être que ça.
Non, bien sûr, c'est pas que ça. C'est aussi l'extrême difficulté de la pièce. C'est-à-dire, la pièce est quand même... Je pense qu'elle pourrait être figurée au programme de l'agrégation de mise en scène. S'il y en avait une, elle est très difficile parce qu'elle change de règles tout le temps. C'est plusieurs pièces construites dans la même pièce à partir des débris de la précédente ou du pressentiment de la pièce future. Il y a une sorte de... Le sol n'est absolument pas sûr. Donc, elle est très difficile à mettre en scène. Et je me disais qu'après avoir fait comme ça 6 ou 7 ou 10, je ne sais plus, mise en scène, je vais essayer d'éclaircir l'Atelier Volant et aussi peut-être un peu de le comprendre. Et aussi l'idée peut-être de retourner, comme à un moment on doit retourner dans le village où est enterré son grand-père. On doit retourner un peu sur mes vieilles traces, sur des choses anciennes pour prendre un élan nouveau.
Quand vous écoutiez à l'instant Sarrazac, vous disiez qu'il avait à l'époque monté quelque chose contraire au goût du temps. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la mise en scène que vous proposez aujourd'hui en 2012, vous faites ça aussi, vous montez quelque chose contraire au goût du temps ?
Je me suis un peu posé la question, parce qu'il y a eu par exemple une très, très mauvaise réception de la part d'une partie de la critique, mais même très violente. Enfin, j'étais à deux doigts d'écrire une lettre de protestation à René Solis, mais bon, on m'a dit qu'il fallait pas répondre, j'ai pas répondu. Mais je pense, oui, alors j'essaie d'analyser comment ce nouveau rejet, d'où il vient, et à mon avis, il vient de ce que notre époque me semble, enfin le petit diagnostic que je fais, extrêmement larmoyante. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus rire de choses cruelles. L'Atelier Volant, par exemple, met en scène le surmenage d'une téléphoniste de 1974, mais qui pourrait tout à fait évoquer les suicides de France Télécom, puisqu'à un moment, elle dit « seule la corde reste à un prix abordable ». Mais c'est une scène très comique. Et aujourd'hui, je pense que le comique est quand même suspect. Il faut verser des larmes ensemble, il faut être effondré, il faut appesantir le spectateur, il faut le culpabiliser. Et moi, j'ai toujours l'idée plutôt d'un théâtre comique, cruel et libératoire, un peu, voilà, proche cette, comment dire, de ce côté résurrectionnel du théâtre, ressusciter, casser, détruire et ressusciter la figure humaine, la reconstruire autrement. Il y a une sorte de joie dans le théâtre qui est, je sais pas comment dire, quelque chose de la joie du pluriel aussi. On est sauvé, on est libéré par le pluriel. Le théâtre libère, il libère aussi du moi. Les écrivains de théâtre sont très, très, me semble-t-il, tous. On sait très peu sur leur vie, ils se confient très peu, etc. Mais il y a une sorte de joie de détruire le moi et de se diviser en plusieurs et d'être autre chose que sa carte d'identité.
Je parlais aussi de votre proposition plastique. Est-ce que, du coup, je vais réorienter ma question. Est-ce que vous avez l'impression, dans ce que vous proposez plastiquement au plateau, d'être en dehors du goût du temps, du goût de l'air du temps ?
Sûrement, puisqu'il n'y a ni fumigène, ni vidéo, ni ambiance. Je suis un grand ennemi des ambiances. Dès que la moindre ambiance s'installe, je la combats.
Pourquoi ?
Parce que je cherche de mettre le spectateur dans un état d'instabilité mentale. Enfin, il faut sans arrêt lui construire un plancher fragile et changer ce plancher sous ses pas. Il faut retrouver une sorte de danger ou de petit vertige, mais qui est en même temps une sorte d'ivresse aussi. Enfin, le goût du... Retrouver le goût du grand air, le goût de l'espace, c'est pas par hasard si la pièce, si le spectacle se termine par quelqu'un qui a un acteur qui a eu un peu peur de monter au sommet d'un mât de 4 mètres et qui doit parler de là-haut. Il a peur, maintenant il a moins peur, ça va mieux, mais il y a une sorte de retrouver le péril, la joie du péril aussi, voilà.
Qui est une joie enfantine. Moi, j'ai beaucoup pensé quand même à des jeux de badaboum, à des jeux de construction, de
oui,
toutes
oui,
les couleurs.
Oui, totalement, des Lego, des cubes. Oui, oui, bien sûr, mais totalement enfantin. La pièce est totalement enfantine. C'est aussi une, je disais aux acteurs, c'est aussi une classe. C'est aussi quelques 5 cancres et un professeur. Et les élèves qui viennent voir, les jeunes gens qui viennent voir en ce moment le spectacle ressentent ça très bien aussi, que ça parle aussi de non seulement du patronat ou de l'oppression qu'il peut y avoir dans une usine, mais dans tout lieu où il y a quelqu'un qui a la parole et l'autre non.
Si vous bossez, vous augmenterez. C'est juste, à plus de travail, plus de grain, à chacun son gain. Bouco travaille aussi, il a beaucoup de soucis, je ne voudrais pas les avoir.
Pas assez de monnaie, nom de Dieu, je tire la ficelle.
Si vous travaillez plus vite, vous allez doubler, peut-être même quadrupler.
Dans les mots eux-mêmes utilisés par M. Boucou à l'instant, si vous travaillez plus vite, si vous travaillez plus, si vous produisez plus, il y a un écho évident avec des formules politiques extrêmement récentes, avec un vocabulaire politique appliqué au travail extrêmement récent, au système économique de production. Lorsque vous réentendez ce texte-là 40 ans plus tard, est-ce que vous vous réjouissez de l'actualité qu'a ce langage-là ou est-ce qu'au contraire vous le déplorez ?
Ben je m'attriste que les choses aient empiré à ce point, parce que c'est vrai ce que caricature ou dénonce un peu l'atelier volant, c'est aujourd'hui très présent, mais sous une forme évidemment plus polyforme, enfin moins repérable. Là, tout est réduit à un petit microcosme de 5 employés, Monsieur Boucou, Madame Boucou, le docteur. C'est un tout petit théâtre, un castelet de marionnettes où se joue la lutte des classes qui se transforme assez rapidement en lutte des langues. C'est vers le milieu de la pièce, il y a ce passage aux scènes de la langue qui est un glissement fondamental. Et la lutte des langues, on est aujourd'hui jour et nuit en plein dedans. Enfin, on est dans une époque langagière. La France, dans le vrai sens, il y avait une phrase que j'avais placée à un moment. La France est-elle une république langagière ? Enfin, et pas seulement la France. Enfin.
D'ailleurs, cette préoccupation pour la langue-là, qui est une préoccupation d'oppression, ce glissement qui s'opère à l'intérieur de l'atelier volant, elle est au centre de la pièce, mais elle va être ensuite au centre de tout votre travail d'écriture, de dramaturgie, de production théâtrale ou romanesque ou poétique. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont vous vous entreteniez avec la langue à 22 ans au moment où vous écrivez l'atelier volant ? C'était quoi la tension qui régnait entre vous et le langage, entre vous et la langue française, entre vous et les phrases et les mots. Et qu'est-ce qui a bougé radicalement ?
C'est vrai qu'à l'époque aussi, la pièce est écrite en 68. Et il y a d'ailleurs quelques petits fétiches dans la scénographie. Il y a la mobilette avec laquelle j'allais de la Sorbonne à Billancourt. Et il y a la machine à écrire avec laquelle j'ai écrit l'atelier volant, qui sont là comme des petits fétiches personnels, des petits signes. Mais c'est vrai que j'étais donc du gros des manifestants à Paris, etc. Et très souvent aux premières loges. Par exemple, j'étais la nuit même où, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, quelqu'un est venu dire « Camarade, attention, ça y est, Billancourt est en grève, tout ça Billancourt ». J'ai pris la mobilette à 2h du matin, on était là-bas, des moments très, très, très forts. Mais j'étais aussi, lorsque je retournais en Savoie, en contact avec des ouvriers paysans. Des gens aussi qui, donc des ouvriers, des amis ouvriers qui faisaient les 3-8, qui faisaient à la fois le travail de la campagne et puis travaillaient à la source Cacha, aux eaux des viands, etc. Et aussi leur langue, c'est des gens qui parlaient quand même patois. Donc la lutte des langues était là-bas aussi, l'école, la lutte des langues, les, je sais pas, cette polyphonie de force qu'il y a dans le langage. Donc cette idée que j'ai eue tout de suite d'une sorte de pluriel des langues. Mais je pense que c'est aussi cet endroit, peut-être des Alpes, où la langue est autre d'une vallée à l'autre, le patois change complètement, l'italien est un jour de vélo, l'allemand pas loin non plus. Voilà, cette idée que les langues comme des forces.
Qu'est-ce qui a bougé dans ces forces-là, justement, depuis 40 ans d'écriture ? Chez vous ?
Ah ben les langues, ce qu'étaient les langues, à savoir, totalement disparu, il ne reste plus qu'une...
Non, mais je parle vraiment de vous, c'est-à-dire vraiment pas de ce qui a bougé dans le paysage langagier, mais peut-être vraiment à l'intérieur
de votre propre
écriture.
Je ne sais pas, que je descends de plus en plus dedans. Par exemple, là, je vais tous les soirs au théâtre, et j'écoute la voix des acteurs, leur respiration. Et je peux même, là, hier j'ai remarqué, je pouvais faire des diagnostics sur des angines qu'ils vont avoir d'après leur voix. J'ai dit à Myrto, il y a une petite bronchite qui se prépare, etc. Donc j'ai une attention extrême à la voix, au rythme, à la respiration. Et le théâtre est pour moi un laboratoire de la linguistique à vif, ou voir le langage à vif, tout à fait extraordinaire. Et j'y retourne pour apprendre, non pas simplement pour aider les acteurs, si je peux les aider, mais aussi pour apprendre quelque chose sur le fonctionnement de la parole, sur l'énergie du langage. Comme un mot prononcé, une réplique illumine la perception qu'on a eue de toute la scène, ou même de toute la pièce. Comme les choses sont beaucoup plus réversibles, polyphoniques, comment dire, que le langage, j'ai toujours cette image, que le langage est une onde, comme l'eau, etc. Vraiment une onde, que la linguistique devrait, pour moi, faire partie c'est une branche de la physique des fluides, la linguistique, mais aussi que le langage agit par capillarité, c'est-à-dire il agit dans les deux sens. Il n'agit pas simplement dans le sens de la progression de la phrase et du sens, mais un mot prononcé à la fin vient dénouer des choses qu'on vous avait entendues une heure avant.
Comme en allemand.
Exactement, voilà. Il n'y a pas qu'en allemand que le verbe à la fin délivre beaucoup de choses. En français aussi, il y a une sorte de délivrance des mots par les mots très étrange. Et c'est ça que je viens observer, de combustion du langage. Que le langage, c'est pas des mots comme ça accrochés comme des wagons ou des pièces de Lego, mais que il y a une... Et je parle beaucoup d'ardeur. Je dis à Julique Perret, tiens, cette scène, là, ton monologue, il n'était pas assez ardent. Ah bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, que le langage doit être brûlé, et dans le fond, qu'il y a une sorte de, pas de destruction, mais de flamme, de feu qui est mis en notre langue par le corps de l'acteur, le feu de la respiration.
Feu qui cherche le sens ?
Pardon ?
Feu qui cherche le sens ?
Oui, enfin, en ce sens, parce que moi, j'aime bien, justement, dans les langues, et en français particulier, j'aime les mots ambivalents, les mots réversibles. Personne. Magnifiquement contenant quelqu'un et pas quelqu'un, personne. Entendement, qui veut dire l'oreille et l'intelligence. Mais aussi, le mot sens me semble très intéressant parce que c'est l'essence, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Et aussi l'essence de façon intelligente, intellectuelle, mais aussi les directions. Donc, ce qui m'importe partout, dans le fond, c'est la dynamique. C'est la seule chose que j'avais dans la chair de l'homme, là. Que j'ai écrit il y a quelques temps, il y avait... Mais je ne me souviens plus de la réplique. À un moment, un acteur disait ce qui est le plus proche de toutes les... Dieu n'est proche d'aucune de ces définitions, mais Dieu est la parole. Et alors, Léopold von Verschuur répondait, non, c'est le mouvement. Donc moi, je pense grosso modo que Dieu, c'est le mouvement.
Et que le théâtre cherche ça.
Oui, que le théâtre cherche la vie contradictoire. Et c'est l'endroit où retourner, reprendre un bain salutaire comme à une source froide de paradoxes. parce qu'on est... tout est anti-paradoxal autour de nous. Tout va dans le sens de l'idéologie, des choses dans des caisses, dans, livrées, etc., des mots contenant des choses, etc. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de jeu et de renversement de tout, et une sorte de... Il me semble, quand je vais voir le spectacle et qu'il se passe bien, je suis régénéré, je suis mieux pour le lendemain, pour affronter le lendemain, parce que mon cerveau a tout d'un coup perçu des choses non mécaniques, une grande leçon de non mécanique.
Dans l'atelier volant, j'ai envie de dire déjà, travaille la répétition, le ressassement, la figure de la variation qui prend un discours et le répète, mais jamais à l'identique. Que peut la répétition, à la fois dans votre langue et plus généralement dans le langage? Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir?
Certainement un pouvoir d'hypnose. C'est pas la répétition en soi, mais c'est la répétition pour amener ensuite à entendre autrement. J'ai remarqué que la plupart des pièces du théâtre classique commencent par des énumérations. Le malade imaginaire, 6 sols, 6 sols, 3 sous, Monsieur Purgon, le prix du médicament. Ou le mariage de Figaro, on mesure une pièce, Figaro remesure une pièce, 3,50 m, enfin il dit une toise 80, etc. Bon. Commencer par une énumération pour un peu saouler, enfin pour bercer, pour qu'on perde un peu la perception d'avant, et ensuite percevoir tout autrement. C'est-à-dire que l'idée d'un renouveau de la perception, quelque chose de revigorant, enfin même si les pièces parlent de mort, de dépression, de suicide, de tout ce qu'on veut, des choses très très cruelles, mais toujours de façon comique, plurielle, et qui doivent faire des spectateurs un peu plus armés à affronter ce qui les attend le lendemain que la veille.
Donc ça enivre.
Oui, l'idée aussi de réveiller les zones du langage. Je pense qu'il y a dans les zones de Broca du cerveau, il y a des endroits qui sont très endormis par le journal télévisé, par les journaux, par les romans à l'eau de rose, je sais pas, et revivifier tout ça. Donc j'aime beaucoup. J'aime pas le mot poésie, par exemple. Le mot poésie m'énerve. Parce que c'est devenu un culte. Les gens disent le poète, la poésie, c'est devenu vraiment une idole. Enfin, il y a beaucoup de mots qui deviennent des idoles et c'est peut-être le sort de tous les mots.
Ça veut pas dire qu'il faut plus les utiliser.
Oui, bien sûr. Oui, mais quand même, en français, je l'ai peut-être utilisé deux fois, je l'aime pas trop. Mais je l'aime énormément en allemand parce que c'est Dichtung. Et Dichtung, ça veut dire c'est densité, l'idée d'un langage plus dense. Donc il y a le langage qu'on utilise en ce moment, voilà, et il y a un langage plus dense qui est le langage du poème ou de l'acteur, une sorte de langage serait du H2O et il y aurait un H8O qui serait quelque chose de plus dense, de moins maîtrisable, de moins domestiqué.
Vous avez vu ?
Vague de mécontentement populaire, j'espère que ça ne va pas se reproduire, nom de Dieu.
Ça récrimine, ça récrimine.
J'espère que ça ne va pas se reproduire, nom de Dieu.
Ça bouge sous les planches, ça murmure. Si les moutons mettent des dents, il faut les reprendre en main. Monsieur Bouc, je crois qu'il est grand temps que tu les exprimes.
Qu'est-ce que ça veut dire, madame Bouche?
Qu'il faut prendre des mesures.
Oui, oui, on va se mesurer. Ces moustiques m'ont fait perdre fric et temps. Si je les attachais, si je leur coupais les crocs...
Mais calme, Boucan ! Ne battez pas le loup, mettez-le à l'école.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'il faut les tenir.
Comment?
Par la langue. Tu dois prendre la parole.
C'est le couple Boucaud qui discute avant de mater, ou en tout cas de tenter de mater une révolte. Il y a toujours un défaut de la langue, c'est-à-dire qu'elle termine Madame Bouche, Madame Bouc, Madame Boucaud par dire il faut que tu les prennes par la langue, il faut leur prendre, il faut que tu prennes la parole. Et dans ce prennent la parole, il y a cette ambivalence dont vous parliez tout à l'heure, ce double sens qui en effet prendre la parole, s'exprimer, mais aussi prendre la parole, retirer la parole, ôter la parole à ceux qui pourraient se défendre, réclamer des choses, demander des droits. Et il y a toujours un défaut de la langue. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer, à chaque fois qu'on a l'impression que quelque chose va pouvoir se passer de l'ordre de la parole, ça ne se passe pas. Et j'ai vu aussi dans ce manquement une sorte de première défiance au jeune auteur que vous étiez à l'égard du théâtre, à l'égard du verbe de façon générale. Comme si vous disiez « d'accord, je vais faire ça, mais je sais que ça ne peut pas tout. Je sais qu'il y a illusion ».
Oui, et puis il faut Il y a une phrase de Cocteau que j'aime beaucoup, qui il dit « la véritable beauté boite ». Et c'est vrai qu'il faut qu'une... Il faut...
c'est un hasard.
J'aime les écrivains dont les phrases sont incomplètes, déséquilibrées, où il manque une marche. L'irrégularité rythmique, et la science rythmique extraordinaire, mais l'irrégularité de La Fontaine. Bossuet, c'est extrêmement à deux doigts de tomber. Enfin, voilà. Mais je n'aime pas les écrivains réguliers. Je lis ni Chateaubriand, ni Le Clésio. Il y a trop de tout. Il y a trop de tout dedans. J'aime les choses, donc, les écritures centrées plutôt autour du déséquilibre du verbe. Le verbe apporte, le verbe grammatical apporte le déséquilibre dans la phrase. Il déséquilibre les mots, il les fait tomber. Ce qui est intéressant dans le dialogue de cette grande scène de la langue qui va faire suite à ce qu'on a entendu et qui est une sorte pour moi de ourscène, de scène primitive justement à laquelle peut-être j'avais envie de revenir maintenant pour essayer de la voir avec des acteurs. Il y a sans arrêt des marches qui manquent, comme aussi la langue. La langue est aussi parler est catastrophique. Parler n'est pas harmonieux, parler aussi catastrophique, parler qu'on... comprend aussi la chute. Le langage humain doit porter la chute en lui. Enfin, c'est tout ce rapport un peu à l'espèce d'animalité ratée de l'homme par le langage fait aussi rater quelque chose. Enfin, puis il nous projette dans l'espace et il nous met en déséquilibre. Enfin, je sais pas comment dire.
Et la seule qui se déséquilibre pas, celle qui ne rate pas, c'est Madame Boucaud qui, elle, a une sorte de langage justement où il y a tout, où il y a la singerie de la poésie, où la singerie de l'écoute, la singerie de la compréhension, la singerie du lyrisme. Qui est-elle? De qui est-elle
Alors,
le
elle
nom
est, Elle Boucaud est extrêmement mystérieuse, Madame Boucaud. Je parle beaucoup avec Myrto Procopio pour lui dire, bon, là, ce soir, tu as fait ressortir le côté Elena Ceausescu de Madame Boucaud, ou le côté Madame Pompidou, etc., ou Madame, je ne sais pas qui, Madame, l'équivalent actuellement. Mais je dis, Madame Boucaud est là, et à la fin, elle sera quand même sauvée. Elle est visionnaire. Elle a de la tendresse dans le fond pour les employés. Et quand elle se déguise en patronne, secrétaire générale d'un syndicat maison, en même temps, elle voudrait les sauver. Et je lui ai fait faire un petit geste très particulier. À un moment, il y a un acteur qui brise deux marionnettes représentant ses enfants. Il se venge de Boucaud et il bat ses enfants. J'ai dit à Myrto, tu vas les prendre, tu vas les sauver, elle les prenait de façon agressive. Non, tu les aimes, tu vas les adopter, tu vas les élever, tu vas les mettre dans les faire élever par quelqu'un d'autre, tu vas les confier à une nouvelle famille, je sais pas quoi. Enfin, bon, il y a une sorte de tendresse de Madame Boucaud c'est un personnage totalement ambivalent et qui est beau parce qu'il est mystérieux.
Pour moi, c'est le théâtre, en fait. Pour moi, j'ai vu que c'était le théâtre, pour vous, à cette époque-là. Ambivalent, beau, mystérieux, capable de violence comme de sauvetage.
Ouais. Et puis la voix de Madame Boucaud, Myrto a un registre extraordinaire parce qu'elle est elle est aussi de culture grecque et aussi elle est suisse et en Suisse aussi. On parle un français en Suisse et en Bourgogne, en Lorraine. On parle un français plus respiré que le français qu'on parle actuellement à Paris ou en Normandie. Elle sort encore de sens, sentiment des longues et des brèves. Enfin, que la langue est. Et je travaille beaucoup là-dessus avec les acteurs et je remarque que les jeunes acteurs n'ont plus les longues et les brèves, tandis que c'est essentiel de voir que la langue avance par poussée, recul, reflux, enfin qu'une phrase est une succession de vagues, et retrouver le sentiment de cette élasticité du français qui est fondamentale non seulement pour la joie du langage dans l'espace, mais aussi pour la pensée. Que la pensée doit se refaire souple, élastique et renversante. Si penser, c'est pas renverser, ça vaut pas le coup.
Dans cette grande scène centrale et en effet archaïque, primordiale, il y a cette phrase qui dit finalement toujours la parole, tu nous la coupes. C'est un ouvrier qui s'adresse à Monsieur Boucaud et qui peut-être dit cette parole de vérité qui est qu'ils ne l'ont jamais, la parole. De ce moment-là, 1972, 1973, 1974, naît la lettre aux acteurs. Dans quelle mesure est-ce que la lettre aux acteurs, qui est un de vos textes très importants, prend naissance dans ce travail autour de l'atelier volant?
Alors c'est quelque chose de très concret, c'est-à-dire Jean-Pierre Sarrazac m'avait demandé de plus venir aux répétitions, il m'a chassé des répétitions et je pense qu'il avait bien raison parce que je devais être quand même un peu un emmerdeur dans les répétitions, il ne faut pas plusieurs autorités en face des acteurs, donc il m'a chassé et chassé en le dimanche qui suivait et le dimanche d'après. J'ai écrit la première moitié et la deuxième moitié de Lettre au directeur et je suis allé le lundi au sortir de la répétition devant la porte quand ils avaient fini à 6h30 là, leur distribuer des photocopies que j'avais fait. Alors Michel Berthaud, Arlette Bonnard, Alain Olivier ont reçu mes... Donc c'était complètement une lettre pour eux, c'était une lettre d'amour déçu, c'était une lettre de quelqu'un de blessé et c'était pas du tout destiné à la publication ni rien. Voilà, c'est une chose tout à fait de très 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 liée à cette expulsion du théâtre.
Est-ce que ça leur rend la parole aux acteurs?
Bah, à l'époque, moi, je voulais ou je m'imaginais être le Spartacus des acteurs. Je voulais libérer les acteurs de la tyrannie de la mise en scène, etc. Et encore là, j'ai rencontré des jeunes acteurs hier et je leur disais, faites confiance à votre instinct profond, à votre contact profond avec le texte. Vous en savez plus que le metteur en scène. Vous touchez l'âme du texte. Le metteur en scène, il agence l'économie de tout ça, il fait fonctionner, et il voit l'ensemble, c'est très, très important comme travail. Mais que celui qui a le toucher du théâtre, du point ardent du théâtre, c'est l'acteur. Et que pour le public aussi, l'émotion sublime, j'allais dire. Enfin, l'émotion très, très, la plus forte du théâtre, c'est l'émotion du travail de l'acteur. Et ce qui me ferait de la peine, dans le fond, si le langage se mettait à quitter définitivement le théâtre et qu'il n'y ait plus que des grommelots ou pas grand-chose ou des choses en anglais, ou je ne sais pas, voilà. Ce n'est pas tellement la disparition.
Mais rassurez-moi, l'anglais est un langage. Ou...
Oui, bien sûr. Enfin... Non, mais ça dépend quel anglais. Enfin, l'anglais des aéroports n'est pas un langage. Non, mais donc si la langue se retire du théâtre, pourquoi pas, elle ira se réfugier dans les livres et dans la musique et ailleurs, etc. Mais ce qui me peinerait, c'est de voir disparaître le très grand art de l'acteur occidental, l'acteur de texte. C'est tout à fait extraordinaire. Michel Serrault, Christine Fersen, Louis de Funès. Voilà, des. Donc c'est ce très grand art. Et après, on pourra plus tellement faire comprendre ce que c'était. C'est quelque chose de singulier, de très mystérieux. Moi, je viens vous essayer de comprendre ce qu'ils font. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à leur alimentation. Je voudrais écrire un livre qui s'appellerait « Diététique de l'acteur ». Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont fait la journée, etc. Donc je les observe beaucoup et je m'étonne de les voir et j'essaye de comprendre pourquoi un jour... Parce qu'on sent dans une salle, si on voit le spectacle tous les jours, on sent très bien si telle phrase est perçue par le public ou non. Elle peut être là, mais pas perçue de façon vivante, comme quelque chose qui leur touche le corps, au spectateur. Et ça tient à des choses imperceptibles.
Est-ce que vous diriez que votre motivation à l'écriture, elle est davantage dans l'espoir ou dans le désir de voir porter votre texte sur scène par des corps et par des voix que dans le désir d'exprimer des idées?
Je ne sais pas. Mon désir, ce serait que celui qui ouvre le livre... comprennent qu'il est un acteur lui aussi, qu'il a fait un travail physique d'ouvrir le livre.
Mais vous?
Ah, la question c'est quoi?
La question porte sur la motivation de l'écriture. Est-ce qu'elle est davantage vouée à mettre des mots dans un corps, dans une respiration, dans une stature sur scène, ou est-ce que c'est vraiment là pour exprimer des idées?
Idées, sûrement pas, parce que moi, les idées, j'aime pas trop.
On est d'accord.
Et j'oppose beaucoup les idées à la pensée. La pensée me semble une mise en mouvement des idées, des mots, etc. Et quelque chose. Et je travaille encore là, je poursuis un petit texte sur le lien entre la pensée et la respiration. Que la respiration inverse, qu'elle passe par l'asphyxie, par la mort, et qu'elle se retourne et qu'elle vit quand même au-delà d'une asphyxie qui a eu lieu, et que la pensée aussi détruit et renaît. Et que la pensée lutte contre cette tendance que nous avons tous à transformer les mots en idoles. Les mots en idoles invisibles. Quantité de mots autour de nous deviennent chaque jour des idoles invisibles et qui changent tout le temps. Hein. Mais c'est des espèces de morceaux morts qu'on s'échange et on appelle ça communiquer. Il faut remettre tout dans la dialectique respiratoire et le passage par la mort et la résurrection qu'il y a toutes les 3 minutes ou 2 minutes dans notre souffle.
Donc finalement, ce qui est opposé, ce qui a pu être opposé au moment de la réception, là en 2012, de l'atelier volant sur à quoi bon monter une pièce qui parle de la surproduction aujourd'hui alors que les choses ont évolué depuis 40 ans, c'est une critique qui arrive à côté.
Ah, totalement à côté. Oui, j'ai Oui, j'étais même surpris. J'ai cherché à analyser ce qui s'était passé.
C'est pas une question que vous
posez.
On
m'a proposé, par exemple, on m'a reproché de ne pas parler de Lehman Brothers, parce qu'il fallait parler des banques en les nommant. Donc il n'y a pas le mot. Il y a le mot banque à un moment, voilà. Mais il me semble que
Le mot bourse.
La bourse, oui. Les gens entendent parler de ça quotidiennement. Je veux dire, c'est très proche des spectateurs qui entrent là par hasard, qui par exemple au théâtre du Rond-Point se trompent de salle, veulent aller voir ceci et ils tombent sur l'atelier volant. Mais ils sont quand même, ils peuvent être avec nous sur certaines scènes tout de suite. Après, ils peuvent être déboussolés, s'en aller, etc. Bon, libre, chacun est libre. Je cherche mon idée aussi, c'est de jamais considérer le public comme un troupeau, qu'on fait rire à tel moment, ou comme un troupeau qu'on déplace de telle certitude idéologique à une autre, ou qu'on amène de telle constatation. Donc l'idée, ce sont des oiseaux tous libres, tous singuliers.
Libres d'aller et venir.
Oui.
Bon, d'habitude, à cette heure-là, je dis qu'il est l'heure de la poésie, mais puisque vous n'aimez pas ce mot-là, je vais l'éviter aujourd'hui. Je vais dire que nous sommes dans les textes de Gerasim Louka, dont 5 ont été choisis par Laurence Courtois. Aujourd'hui, tiens, peut-être ça peut vous aller, ça s'appelle « Prendre corps » et c'est lu par Françoise Gillard et Félicien Jutner de la Comédie Française. On écoute.
Prendre corps.
Je te flore.
Tu me faunes.
Je te paume. Je te porte et te fenêtre.
Tu m'osses, tu m'océan, tu m'audaces, tu me météorites.
Je te clé d'or, je t'extraordinaire.
Tu me paroxysmes. Tu me paroxysmes et me paradoxes.
Je te clavecin.
Tu me silencieusement. Tu me miroirs.
Je te montre.
Tu me mirages, tu m'oasis. Tu m'oiseau, tu m'insectes, tu me cataractes. Je te lune.
Tu me nuages, tu me marées hautes.
Je te transparente.
Tu me pénombre, tu me translucides. Tu me château vide et me labyrinthe. Tu me parallaxes et me parabole. Tu me debout et couché. Tu m'obliques.
Je t'équinoxe. Je te poète.
Tu me danses.
Je te particulier.
Tu me perpendiculaire et soupente. Tu me visible. Tu me silhouette. Tu m'infiniment. Tu m'indivisible. Tu m'ironies.
Je te fragile. Je t'ardente. Je te phonétiquement.
Tu me hiéroglyphe. Tu m'espace. Tu me cascade.
Je te cascade. À mon tour, mais toi. Tu me fluides. Tu m'étoiles filantes. Tu me volcaniques.
Nous nous pulvérisables.
Nous nous scandaleusement, jour et nuit.
Nous nous aujourd'hui même.
Tu me tangentes.
Je te concentrique.
Tu me solubles.
Tu m'insolubles.
Tu m'asphyxiant et me libératrice.
Tu me pulsatrice. Tu me vertiges.
Tu m'extases.
Tu me passionnes.
Tu m'absolues.
Je t'absente.
Tu m'absurdes.
Thank you.
Valère Novarina, c'est vous qui êtes venu avec ce disque-là, vous teniez à faire entendre ce morceau-là. Pourquoi et qu'est-ce que c'est?
Scriabin, je crois, non?
Oui, c'est Scriabin.
Oui, joué par Sofonisky. Par Scriabin, ah oui, je pensais que c'était... Mais c'est pas Vers la flamme, parce qu'il a enregistré Vers la... Oui,
Pourquoi Scriabin?
Pour la force de sa musique, mais aussi parce que quand même, il était fou. J'ai visité la maison de Scriabin à Moscou, c'était très émouvant. Il y avait trois vieilles dames qu'il avait presque connues et qui montraient un appareil avec des ampoules de différentes couleurs qui l'allumaient pour associer la musique aux couleurs, un peu comme faisait Messiaen dans sa tête, dans sa perception. Donc cette idée aussi de quelque chose qui est dans le fond en couleur, que le langage est aussi en couleur, qu'il y a aussi une chair colorée du langage.
Eh bien, c'est en couleur sur scène. L'Atelier Volant se joue jusqu'au 6 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris. C'est publié, le texte est publié chez POL, ainsi que la lettre aux acteurs à l'intérieur du Théâtre des Paroles. Et puis, la tournée, je le disais en début d'émission, du 9 au 13 octobre à Villeurbanne au TNP, le 17 octobre à Scène Nationale de Mâcon, le 23-24 octobre à Rochefort et du 14 au 24 novembre à Lausanne, en Suisse. Et il me semble que ça continue. Merci beaucoup Valère Novarina d'avoir été avec nous cet après-midi. Pour écouter cette émission, le site internet de France Culture dispose en haut et à droite d'un onglet podcast. On dit oui, je le veux, podcaster pas la peine de crier, normalement ça fonctionne. Merci à Laurence Courtois et Juliette Eman des Fictions, aux manettes aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Anne-Laure Chanel a réalisé cette émission, elle fait des gros yeux car je suis en retard. Cyril Baer et Claire Poinsignon l'ont préparée. Revenez jeudi